S'il est un fragment de l'histoire des Juifs polonais pendant la Shoah qui n'a pas été intégré à la mémoire collective, c'est celle de ceux qui, d'une façon ou d'une autre, se sont retrouvés en Union soviétique et, pour l'immense majorité d'entre eux, ont survécu. Ils n'ont connu ni Auschwitz ni Treblinka, ils n'ont pas été tués par leurs voisins polonais. Ces quelques 200 000 Juifs constituent l'immense majorité des survivants juifs polonais. La plupart d'entre eux quittèrent très vite une Pologne libérée du joug allemand, mais certainement pas de l'antisémitisme où certains de ceux, si peu nombreux, qui tentèrent de retourner chez eux, furent sauvagement assassinés. L'heure est aujourd'hui largement venue d'embrasser toute l'histoire, de lire les récits qui sont autant d'épopées de ceux qui nomadisèrent en Union soviétique et qui y apprirent l'art de survivre. Le livre de Maurice Dromlewicz, intitulé « Tribulation d'un jeune juif polonais en URSS entre 1939 et 1946 » et édité aux éditions Fauve. Ce livre est donc l'histoire d'un jeune juif et de ses tribulations en Union soviétique. Il est encadré par deux dates et deux lieux séparés par des milliers de kilomètres. 1er septembre 1939, Varsovie. 8 mai 1945, Yurga, en Sibérie. Il évoque Jelechów, sa ville natale et celle de son frère Henri, qui fut du périple, Brest-Litovsk, Sarny, Kovel, Lusk, Rivne, Kostopol, Stalingrad, Astrakhan, Tashkent, Och, Nizhny Tagil, Marinsk, Krasnoyarsk, le kolkhoz Karl Marx, les petits trafics, la corruption, le goulag, offrant un tableau vivant d'une Union soviétique tout à la fois paralysée de peur et ouverte à bien des aventures. Ce que je viens de lire est en fait un extrait de la préface rédigée par Annette Wiewiórka à cet ouvrage que j'ai donc nommé « Tribulation d'un jeune juif polonais en URSS entre 1939 et 1946 ». L'auteur en est Maurice Dromlewicz, qui a lui-même été le « héros » entre guillemets de ces tribulations. Le texte est présenté et commenté par sa fille Sylvie Dromlewicz-Lidzi, qui... Entre les paragraphes, entre le récit paternel, insère quelques notes historiques, explicatives, parfois lexicales, du contenu de ce récit. Ce récit est un véritable roman picaresque, et de même que Maurice Dromlewicz le dit lui-même lors d'un exposé qu'il a fait et qui a été publié par la revue Écrit d'Ouest, il dit bien que dans son récit, Michel Strogoff, le héros de Jules Verne, traverse comme lui l'Ukraine, la Russie, la Sibérie, mais que lui, son récit, c'est les aventures du fils de Michel Strogoff. Il ajoute également, lors de cet exposé, qui fut d'abord un exposé oral, il ajoute avec beaucoup d'humour, et d'ailleurs l'humour parsème tout cet ouvrage, si vous êtes venu chercher une histoire de l'art, Si vous pensiez, en venant ici ce soir, écouter une conférence de philosophie ou de sciences politiques, vous n'avez pas choisi le bon endroit. Si vous êtes venu chercher une histoire de l'art, vous vous êtes un peu moins trompé. Je vais vous donner quelques indications sur l'art de survivre. Voilà, donc cette conférence, effectivement, la revue publiée par la Société Rochelaise d'Histoire moderne et contemporaine sur l'histoire, la littérature et l'art de la Charente, a publié donc cette conférence qui a été donnée en novembre 2005 à La Rochelle, puisque M. Dromlewicz et sa famille avaient fini par s'établir dans cette ville. Mais nous y reviendrons. L'histoire commence à Jelechów. Jelechów, petite ville de Pologne, où les Juifs sont installés depuis le XIIe-XIIe siècle. Et ce que je voulais préciser à Jelechów est que en 1765, donc nous remontons évidemment en arrière, 1460 Juifs y vivent. En 1897, il constitue 69% de la population, c'est-à-dire 7740 habitants au total. En 1921, on recense 7142 habitants, dont 4016 juifs, soit 56%. Et dans les années 30, avant la guerre, on dénombre 8500 habitants, dont 5800 juifs, soit 68% de la population, ce qui fait effectivement un chiffre plus que remarquable. Et comme l'ajoute M. Drumlevitch, Maurice Drumlevitch lui-même, comment peut-on être attaché à un pays comme la Pologne, un pays qui vous inflige autant de souffrances, qui restreint ainsi votre liberté? C'est une question que l'on m'a posée parfois. Nous aimions la Pologne, nous aimions cette terre. Qui n'aime pas la terre où il est né, la terre de ses ancêtres? Nous, juifs de Pologne, nous aimions la Pologne, mais la Pologne ne nous aimait pas. La guerre éclate et Henri, le frère aîné, est incorporé dans l'armée polonaise. Au bout d'un moment, au bout d'un court moment, puisque dès début octobre 1939, alors que la guerre a éclaté, comme vous le savez, le 1er septembre, pas de nouvelles de Henri, et le tout jeune Maurice se propose pour aller chercher son frère. Bien sûr, sa mère, hors de question, elle ne veut pas perdre, elle pense avoir déjà perdu un fils, elle ne veut pas perdre le second. Et son père s'approche de lui, et je cite Maurice Drumlevitch, « Mon père s'est approché de moi, il a mis ses mains sur ma tête, il m'a dit, je l'entends encore comme si c'était hier, là où tu te trouveras, sois un homme, un mensch, en yiddish, et digne de l'être. » Et je suis partie pour prendre le train. J'ai cherché mon frère pendant 4 mois, et je l'ai retrouvé à Lwotsk, à 200 km au sud de Brest-Litovsk. Et cela s'est passé de la manière suivante. Et là commencent les récits tout à fait improbables, puisque, en fait, que s'est-il passé? Le 4 octobre 1939, nous explique Sylvie Drumlevitch Lidzi, une ligne de démarcation est établie dans l'est de la Pologne. Jelechow fait partie de la zone d'occupation allemande. Les Allemands reviennent dans la ville. Et avec tes copains, elle s'adresse à son père, tu as pris le dernier train qui partait vers l'est. Brest-Litovsk, ville polonaise, passe sous autorité soviétique le 4 octobre. La frontière est définitivement fixée le 9, lorsque les négociations avec les pays baltes auront abouti. Ce qui fait que notre jeune Maurice, Moïse, je n'ai pas précisé sa date de naissance, il est né en 1921, ce qui donc, 14 mars 21, en 39, il a donc 18 ans. Donc il est du côté soviétique cette fois, et il va retrouver de façon complètement miraculeuse son frère. Son frère qui a réussi à s'évader alors qu'il était, en tant que soldat polonais, il avait été fait prisonnier par les soviétiques. Et son frère lui raconte le récit suivant. Leur régiment avait été fait prisonnier, donc les prisonniers étaient envoyés régulièrement dans des camps de concentration en Sibérie, et le voilà qui se retrouve dans une compagnie qui marche vers la gare, et son lacet de chaussures s'est défait. « Comment ?» s'écrie Maurice. « Ton lacet de chaussures, mais tu étais dans la cavalerie, tu portais des bottes, tu n'avais pas de chaussures à lacet. J'étais prisonnier dans un camp et je portais des bottes. Mais voilà, il y avait un gardien auquel les fameuses bottes plaisaient beaucoup. Il lui a pris ses bottes et lui a donné une cartouche de cigarette et un pain. Et voilà comment on fait du troc et comment on est amené à lacer ses chaussures. Ce qu'il fait, puisque le lacet est donc défait, il s'apprête à rejoindre la cohorte des prisonniers. Il constate que la compagnie s'est déjà bien éloignée et il se baisse à nouveau pour recommencer à lacer ses chaussures tout doucement. Et dans l'intervalle, évidemment, la colonne s'est déjà éloignée à plus d'une centaine de mètres de là. Les passants autour regardent et en peu de temps, il est entouré de badauds qui comprennent son jeu, qui lui jettent une veste civile sur les épaules. L'homme en question l'emmène chez lui, il a brûlé tous ses vêtements militaires et puis il a trouvé un travail de cocher. Et c'est comme cela, comme il était dans la cavalerie, et c'est comme cela qu'il l'a retrouvé. Son frère Henri Herschel, Il était cocher, il travaillait pour un boulanger et distribuait le pain dans les magasins. Hasard, écrit Maurice Drumlevitch, chance, coïncidence, je ne pense pas. C'est plutôt du réflexe. Mon interprétation, c'est que quand Henri s'est relevé après avoir noué son lacet, il a eu le réflexe de se baisser à nouveau. Et ce réflexe, nous ne l'avons jamais perdu pendant tout le temps où nous sommes restés en Union soviétique. Donc nous voici ici, tout au début de ces fameuses tribulations qui vont aller jusqu'en Sibérie, puisque Maurice et Henri, qui ne seront jamais séparés, à part un tout petit laps de temps où Henri sera arrêté, mais bon, finira par être rapidement relâché, eh bien, ils vont tous les deux marcher vers l'Est, et de plus en plus vers l'Est. C'est vraiment, c'est pas un western, c'est un eastern, si je puis me permettre ce néologisme. Alors, ils poursuivent donc leur marche, parfois à pied, parfois autrement. À l'époque, écrit encore Maurice Drumlevitch, nous ne nous rendions pas compte des tragédies qui nous entouraient. Nous n'avions pas vraiment conscience des événements. Nous agissions, et puis dans l'instant, c'était oublié. Nous n'avions pas le choix, c'était comme ça. Nous ne savions jamais ce qui adviendrait le jour d'après, ce que l'avenir nous réservait. Nous ne vivions pas au jour le jour, mais à la minute. Et donc c'est effectivement cette vie tout en réflexe, hein, d'une minute à l'autre, voire d'une seconde à l'autre, qui va leur permettre d'échapper à plusieurs situations pour le moins périlleuses. Et puis il y a l'histoire d'amour, alors l'histoire d'amour avec la langue russe. Un jour, écrit Maurice, je pars dans la rue, je vois un militaire avec un civil, deux femmes qui bavardaient sans façon. Le son de leurs paroles chantait agréablement à mes oreilles. Je me suis approchée pour mieux entendre. Ils parlaient en russe, ils ne parlaient pas l'ukrainien mais le russe. Quelque chose m'a touchée dans la musique de la langue. Je pense que c'est depuis ce jour-là que j'aime la langue russe. L'intonation de la langue était tellement plaisante. Ça m'a marquée. Ça m'a surpris à l'époque de m'intéresser à ce genre de choses. Fallait plutôt penser à manger, à trouver de la nourriture. J'ai appris à parler et à lire le russe. Dans notre groupe, j'étais l'un de ceux qui parlaient le mieux le russe, parce que j'aimais cette langue. À la fin, quand nous avons quitté la Russie en 1946, grâce à cela, j'occupais un poste officieux de responsable de département de produits pharmaceutiques dans un camp de 150 000 hommes. Prisonnier de guerre, prisonnier de droit commun, prisonnier politique, je parlais le russe de manière très correcte. Donc, première histoire d'amour, hein, avec la langue russe, donc. Et puis, ils poursuivent leur route dans le Donbass, en Ukraine, où on accueille des réfugiés à Donetsk. Nous sommes évidemment dans une région pays des Cosaques, où ils ont reçu un accueil extraordinaire. On les attendait, alors ils mouraient de faim, bien sûr, avec des sandwichs, avec du saucisson. Difficile de décrire, dit-il, à quel point cet accueil fut chaleureux. Ils sont allés dans un kolkhoz pour aider à la récolte, le fameux kolkhoz Karl Marx, qui se trouvait à 10 km de Taganrog, au bord de la mer d'Azov, fameuse mer intérieure. J'ai oublié de dire au début de cette émission qu'il fallait vous munir d'une carte de la Russie pour apprécier au mieux toutes ces déambulations. Car évidemment, à la radio, il est un peu difficile de vous montrer quoi que ce soit. Sachez que le livre, écrit par Maurice Drumlevitch, écrit à quatre, voire à six mains, puisque Maurice a été interviewé par l'une de ses petites filles, et donc sa fille Sylvie a prêté main forte à la rédaction du livre pour y ajouter les notes intercalaires dans le cours du texte. Eh bien, ce texte est parsemé de cartes tout à fait utiles pour suivre ce périple, pour suivre ces pérégrinations. Donc, nous voici au kolkhoz Karl Marx, au bord de la mer d'Azov. C'était la première fois, dit Maurice, première fois de ma vie que je travaillais au champ. Donc, il a convoyé les bœufs, il a chargé du blé, récolté des tomates. C'est d'ailleurs là, ajoute-t-il, que j'ai appris à manger des tomates. Jusque-là, je n'en mangeais pas. De la même façon avec les pastèques. Il faisait deux trous dans une pastèque et il se désaltérait. Parce que nous sommes dans une saison évidemment très agréable. Et puis un jour, les paysans ont appris que nous étions juifs. Alors du jour au lendemain, nous avons dû dormir par terre sur la paille. Nous n'allons plus manger avec les paysans, mais dans la cuisine. On nous donnait les travaux les plus durs, nous étions brimés, rudoyés. Jusque-là, on nous avait chouchoutés pour les travaux, ne faites pas ceci, ne faites pas cela. Après, c'était terminé. Juif, évidemment, ce n'est pas le traitement de l'extermination qui se met en place côté nazi, côté hitlérien, mais néanmoins, on leur fait comprendre qu'ils ne sont pas les bienvenus. Les pérégrinations, les tribulations se poursuivent. On arrive, ils partent de Rostov pour arriver jusqu'à Stalingrad, cette fois. Et le départ de Rostov pour Stalingrad se fait de façon épique, je dirais. Tout le monde voulait monter dans un convoi d'une quinzaine de wagons. Pas question d'acheter de billets. Qu'ont-ils fait ? Qu'avons-nous fait, mes copains et moi ? Nous avons cassé les vitres des wagons. Comme j'étais jeune, j'avais de la force. Je me suis hissée jusqu'à la fenêtre, je suis entrée. Nous faisions équipe à deux, un copain était en bas. Il soulevait la femme ou l'enfant, et moi qui étais à l'intérieur, je les tirais vers le haut. C'est de cette manière que nous avons fait entrer bon nombre de femmes et d'enfants. Et nous avons reçu, bien sûr, un morceau de pain, un morceau de viande et d'autres choses à manger. Et nous avons pris la route de l'Est. Après quelques 500 kilomètres avec mes copains, je suis arrivée à Stalingrad. Puis de Stalingrad, ils vont jusqu'à Astrakhan, en français, vers sud-est, vers la mer Caspienne. Et là, de nouveau, ils s'occupent des femmes et des enfants. Ils font attention qu'on ne les vole pas, qu'ils aient de l'eau et du pain. Bref, ils font avant l'heure une œuvre humanitaire. Et il ajoute, toujours avec son humour pince sans rire, à chaque fois que nous leur apportions quelque chose, ces femmes nous traitaient comme un animal de cirque. À savoir, quand un animal au cirque fait son numéro, on lui met un petit sucre dans la bouche, et ben nous, on nous donnait un morceau de pain. Ainsi va la vie, conclut philosophiquement Maurice Drumlevitch. Donc, Astrakhan, où évidemment, comme d'habitude, ils ont extrêmement soif, et ils avisent sur un marché de la morue séchée, morue salée, et je dirais même ultra salée, et ils attrapent un morceau de morue qu'ils mangent, sauf qu'ils n'ont rien à boire. Et donc, ils sont obligés de frapper à la porte d'une maison pour demander un verre d'eau, tellement ils ont soif. Ils continuent leur errance à travers le Kazakhstan jusqu'à la ville de Tashkent, 2500 kilomètres. Et alors là le coup de Maurice Drumlevitch, qui a plus d'un tour dans son sac et qui est plein d'audace, c'est le moins qu'on puisse dire. Ils ont de plus en plus faim. Le train s'arrête, ils aperçoivent une roubashka posée sur le talus. Une roubashka, c'est une chemise que portent les soldats avec une ceinture par-dessus, l'uniforme d'un soldat russe. Que dit-il, Maurice, à ses copains, parce qu'ils sont tous, ils sont une petite bande, un petit groupe, Henri, donc son frère compris. Vous savez quoi, nous allons jouer les gros bras. Je parle bien le russe, j'ai déjà travaillé, je connais le système mieux que vous. Vous allez me suivre, mais il faut m'obéir en tout parce qu'on va jouer à la police, on va jouer au NKVD. Mais il faut faire attention que dans la salle, il n'y ait pas de vrais policiers. Et les voilà partis, ou dans un restaurant, puisqu'ils ont faim. La serveuse demande « Que désirez-vous ?» et il répond en russe « Je veux voir le chef de gare. » Chef de gare est occupé. Je la regarde de haut, de très haut, je veux voir le chef de gare. Et Sylvie Drumlevitch Lidji ajoute deux petites lignes de son cru en s'adressant à son père. Tu frappais des petits coups sur la table d'un air impatient quand tu racontais cet épisode. C'est-à-dire qu'il mime en même temps la situation. Maurice Drumlevitch reprend son récit. Intimidé, donc la serveuse, va chercher le chef de gare. Quand le NKVD appelait quelqu'un, il disait « Écoutez, mais ne répétez pas ». Quand quelqu'un vous disait cela, vous saviez à qui vous aviez affaire. J'ai pris le chef de gare de côté, je lui ai dit « Écoutez, mais ne répétez pas. Il faut nourrir mes hommes. On a une mission à remplir tout de suite, tout de suite, tout de suite, tout de suite. » Nous avons bien mangé. Ensuite, nous sommes sortis, nous sommes cachés dans le train pour ne pas être vus, et le train est reparti. C'est ça, l'art de survivre. S'il fallait encore faire preuve de cet art de survie, je pense que vous aurez compris de quoi il s'agissait. Et puis nous arrivons à l'année... je saute évidemment quelques pages, je veux quand même vous laisser le plaisir de lire ce livre qui se lit véritablement comme un roman d'aventure. Après 1943, la situation a changé, et pour cause. Nous ne risquions plus de mourir dans un bombardement, mais nous n'étions pas à l'abri des pièges de la vie quotidienne d'un Russe soviétique. Et cela se passait de la manière suivante. En Union soviétique, la vie était réglée selon la théologie manichéenne. Deux principes et trois temps. Premier principe, si tu n'es pas pour moi, tu es contre moi. Deuxième principe, si tu es contre moi, etc. En Union soviétique, c'était terrible. On était tout de suite soupçonnés des pires choses. Les trois temps sont relatifs au goulag. Les gens se répartissaient en trois catégories. Ceux qui sont sortis du goulag, ceux qui sont au goulag et ceux qui séjourneront au goulag. C'était implacable. Il fallait éviter le piège d'être au nombre de ceux qu'on enverrait au goulag. C'était notre vigilance de chaque minute. Et donc, nous revoici effectivement à l'idée de chaque minute, et je pense même chaque seconde, être sur le qui-vive. Et les voilà donc dans cette Sibérie accueillante à Mariinsk. Et on l'avait envoyé chercher des cigarettes. Mais je ne vous parle pas d'un paquet ou d'une cartouche, parce que ça, c'est pas compliqué à trouver et à emporter, écrit Maurice Drumlevitch. Mais il s'agissait de 2000 cartouches, et il fallait les transporter. Et pour les transporter, il faut un train. Et c'est là que commencent les ennuis, je cite bien sûr. Parce qu'il faut du bakchich, le pot de vin. Impossible de faire autrement. Le directeur de l'usine de cigarettes veut aussi quelque chose pour lui. On dirait vraiment un roman humoristique d'Union soviétique écrit sous le manteau et passé en fraude à l'ouest. Le directeur de l'usine, donc, il veut bien donner la marchandise, mais il veut obtenir un petit quelque chose pour lui. Et pourtant, j'avais tous les papiers nécessaires pour que ma commande de cigarettes soit honorée et que je puisse la convoyer. Mais ça n'a pas été aussi simple. Je suis arrivée chez le directeur de l'usine. Il m'a regardée en souriant. Il m'a dit... Je n'ai plus de cigarettes. S'il n'avait plus de cigarettes, cela signifiait que je devais rentrer au camp les mains vides. Inimaginable pour moi, j'aurais pris un gros risque. Alors, petite parenthèse de cette histoire de cigarettes. Quand je suis arrivée à Kemerovo, il faisait 38, près de 40 le soir. Je veux dire, moins 38, 38 degrés en dessous de zéro. Je portais un manteau en mouton retourné qui descendait jusqu'aux pieds. Là-bas, on ne portait pas des bottes en cuir, mais des palienki, c'est-à-dire des bottes en laine battue, agglomérée et durcie. C'est très chaud ce genre de bottes, mais ça se mouille très vite. Il faut les faire sécher la nuit. Mais quand il n'y a pas de chauffage, il faut une hache pour couper le saucisson. Avec cette météo, quand on croisait quelqu'un dans la rue, on le montrait du doigt. Alors il s'approchait pour savoir si ses joues ou son nez commençaient à geler. Il prenait un peu de neige, se frottait les joues pour ne pas avoir d'engelure. Et cette affaire de cigarettes s'est déroulée dans un contexte météo comme celui-ci. Donc, que fait-il? Qu'est-ce qu'on fait? Je ne peux pas retourner au camp sans cigarettes, c'est vrai. Je vais aller déjeuner, je serai de retour cet après-midi. Reviens me voir. Je suis partie en laissant le paquet et je suis revenue l'après-midi. Écoute, j'ai vu avec le directeur de fabrication, on peut te fournir les cigarettes que tu veux demain matin. Donc à chaque fois, il faut bien sûr s'arranger, donner, comme on dit en russe, c'est-à-dire graisser la patte, oindre la paume, écrit Maurice Drumlevitch. Cette fois-là, je n'ai pas donné des bottes, mais une cartouche de cigarette. Le chef de gare, le chef de convoi, le chef de train, il fallait donner toujours, tous les intermédiaires en voulaient. Je suis arrivée au camp avec un manque d'une bonne vingtaine de cartouches peut-être, et mon directeur, mais où sont les 20 cartouches? Bon, j'ai trouvé un biais, une histoire, voilà, il n'est rien arrivé. De grave. Ouf, je l'avais échappé belle, encore une fois. Et on a ce genre d'histoire, évidemment, qui parsème tout ce parcours absolument incroyable qui va le faire arriver jusqu'à Krasnoïarsk, encore 600 et quelques kilomètres à l'est. Et puis arrivera la libération. Et Maurice Drumlevitch parviendra jusqu'en France, en repassant par la Pologne, mais sans jamais retourner dans sa ville natale de Jelechów. Il va fonder une famille. Donc, il va s'installer en France, puis à La Rochelle. Et à La Rochelle, il va œuvrer pour la création d'une amitié France-Israël et pour le jumelage de La Rochelle avec Saint-Jean-d'Acre, ville également située sur la mer. Voilà, Maurice Drumlevitch a donc vécu les premières années de sa jeune vie d'homme dans ses tribulations, soviétiques. Il a survécu et son frère Henri avec lui et plusieurs des amis qui avaient fait le voyage avec lui également. Je ne peux donc que vous conseiller, vraiment vous enjoindre à courir, acheter ce livre magnifique que sont les tribulations d'un jeune juif polonais en URSS entre 1939 et 1946, Maurice Drumlevitch, aux éditions Fauve.